jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbe à enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y'a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes, au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié, je m'en suis souvenu. C'était si surprenant, c'était tant incongru. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu. Le jour où j'ai gagné, le jour où j'ai perdu.
Oula, madame, eh ouf, ça va. C'est l'équipe d'Imaginaire en direct sur Radio G jusqu'à 22h. Bonsoir à tous nos auditeurices. Bonsoir. On a donc Sébastien dans le studio ce soir.
Oui, avec un invité, ouais. Jacques Baron.
Qu'on Bonsoir.
A eu la chance d'avoir dans un des salons Imaginaires 2017 ou 2018.
Ça date,
il nous avait présenté à ce moment-là Addiction. Et pour ce soir, on va avoir le plaisir de revenir sur toute sa bibliographie et particulièrement sur Plasma.
Bonsoir Romain, bonsoir Sébastien, merci de m'avoir invité à Radio G. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là.
Donc Jacques, tu écris toujours?
Bah toujours. Oui. Plus de la journée, les trois quarts de la journée, je ne fais que ça.
Pour le ouais. De la chance.
Oui.
En fin d'émission, je vous parlerai d'un recueil de nouvelles, Contes de l'Ouest, signé Bruno Sauti, qui est paru chez Banquise et Comète. C'est un peu du Weird West. Et puis, voilà, on a une grosse rubrique agenda aussi en fin d'émission, bien chargée. Et puis, si, on a une aussi. Jean-Hugues nous a enregistré une chronique plutôt polar, on s'écoutera ça tout à l'heure. Là, on commence l'émission, Jacques, avec ton premier choix musical.
Oui.
C'était Moby.
Go.
Allez, go. Merci Jack d'avoir choisi Go de Moby. J'ai percuté que c'était les accords de la musique de Twin Peaks.
Oui, la série Twin Peaks, oui.
Et donc Wikipédia me dit aussi que les voix sont samplées du morceau Go de Tones and Tales, que ce qui est un groupe que j'aime beaucoup aussi, qui était des ex Bauhaus quand leur chanteur Peter Murphy s'est barré. Et ben voilà, ils ont fait Tones and Tales.
Mais Moby a réussi à bien sampler plusieurs morceaux Twin Peaks. Le cas que tu dis, ouais. Il est vraiment très fort pour faire ça.
Là, pour le coup, c'est un de ses premiers singles. Ouais, c'est sorti premier, en c'est 90. Ouais.
Ça, c'est le premier qui a fonctionné.
Bon, autre chose à dire sur cette chanson ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pourquoi tu as choisi ça ?
Parce que j'aime beaucoup l'ambiance que dégage le morceau. C'est à la fois apaisant, énergisant, et ça me plaît beaucoup. Ça me fait du bien.
Ok. Et
on entend juste Go. Mais sinon, c'est vrai, j'aime beaucoup l'ambiance. Ouais.
Bon, alors Jacques Baron, moi j'ai un roman de Norman Spinrad qui s'appelle Jacques Baron et l'éternité.
Alors il y a Norman Spinrad, il y a aussi Pierre Pelot, que j'avais rencontré à Paris. Ouais, quand je lui ai dit que je m'appelais Jacques Baron, il m'a dit mais c'est pas possible, c'est un personnage que j'ai eu dans un roman, mais qui est aussi de Norman Spinrad. Il a même demandé ma carte d'identité pour persuader que c'était bien mon nom, Jacques Baron. Et donc ça, alors Norman Spiral, normalement j'aurais dû le rencontrer au dernier imaginaire, mais il n'était pas venu, je pense qu'il avait un problème de santé. Mais ça aurait été là l'occasion de le rencontrer.
Ou plutôt aux Utopiales, hein, parce que je suis pas sûr que nous on l'ait invité. On l'a invité une fois peut-être.
C'était aux imaginaires, on m'avait dit qu'il allait venir, mais qu'il venait pas. La dernière fois que je suis venu, c'était en 97, je crois. Et on m'avait dit qu'il serait là, et il n'a pas pu venir. Enfin, c'est les organisateurs de l'événement qui m'ont
dit. Ok. Ouais. Bon, alors je me mets sur le chat de radio-g.fr si vous avez des questions à poser à Jacques Baron. Ben voilà, je transmets.
D'accord.
Le diminutif, donc Jacques, J-A-C.
Oui.
Alors, let's go, donc pour rester dans le mood donc de Moby, go. Donc moi déjà, j'aime particulièrement Plasma. C'est un joli bébé, un gros bébé de 720 pages. Mais ça se lit très 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 bien. Et pour moi, c'est vraiment très profond. Ça me rappelle un romancier qu'adore Jacques, qui l'a un peu lancé, initié à la littérature, Stephen King. Et je pense à La Tour Sombre.
D'accord. Alors La Tour Sombre, je n'ai pas lu le roman. Stephen King, j'aime beaucoup parce que pour moi, il est très inspirant. J'ai beaucoup aimé Misery, des romans beaucoup plus classiques. Tout ce qui est du fantastique de Stephen King, j'ai commencé un roman qui s'appelle Les Talismans des Territoires avec Peter Straub. Et j'ai commencé, mais j'ai pas pu aller plus loin. J'aime beaucoup l'écriture de King parce qu'elle décrit vraiment les émotions, les gens, la vie. Et tout ce qui est commun peut devenir menaçant, dangereux. Et c'est ce qui me plaît chez lui. Mais il y a d'autres auteurs que j'aime beaucoup. Dan Simmons, qui est décédé cette année, d'ailleurs.
Quelques semaines,
Il est décédé il y a 2 semaines, je crois, Et j'aime beaucoup, comment il s'appelle, Dean Koontz.
Ok.
Dean R. Koontz aussi. Alors lui, il est très dans le fantastique, mais il est très, très redoutable dans son écriture. Et après, il y a d'autres écrivains qui étaient psychiatres à la base, j'ai perdu le nom, j'ai un trouble amnésique
à la radio. Ça va revenir au fil de l'interview.
Mais c'est vraiment des auteurs américains qui sont, on va dire, connus. Mais que j'aime particulièrement, Dan Simmons, j'aime beaucoup la qualité de son écriture. C'est vraiment un écrivain très, comme Stephen King, mais en plus, j'ai envie de dire, plus classieux dans l'horreur. Mais il est très, très pertinent. Il y a aussi une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Poppy Z. Bright.
Ah oui.
Elle a écrit un roman, Le Corps Esquis. Et ce roman-là, précisément, pour moi, c'est une ode à la terreur et à la poésie en même temps.
Ok.
Et elle écrit vraiment d'une façon très. D'ailleurs, elle a été découverte par Dan Simmons, qui l'a découverte dans un atelier d'écriture et qui l'a propulsée dans le système de l'édition. Et elle était connue grâce à lui. C'est-à-dire qu'il l'a reconnu, elle lisait une nouvelle qu'elle a écrite, et ça lui a énormément plu. Il l'a lu, et du coup...
J'ai lu Les Contes de la Fée Verte.
Les Contes de la Fée Verte, bien sûr.
Poppy Z. Bright.
Les Contes de la Fée Verte, ça c'est vraiment quelque chose aussi.
On peut dire que c'est un peu l'urban fantasy, pour moi, des années 90, mais qui poussait bien dans ses retranchements. Assez gore, assez sexe et tout.
C'est ça.
Il va pas mal par rapport à...
Elle parle de sexe comme un menu de repas.
Bah, comme c'est, on en parle dans Plasma, alors on voit qu'il y a une jolie brochette d'écrivains vraiment qui t'ont vraiment inspiré et amené donc à l'écriture. Et comme tu le dis toi-même, l'écriture, c'est peindre avec des mots.
Ouais.
Et là, on va essayer de dépeindre un peu ton univers à travers quelques ouvrages, dont Plasma, naturellement. Mmh. Et moi, j'ai envie de démarrer tout de suite. On a la couverture, et ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est thriller psychique. En quoi, Jacques, le thriller psychique diffère-t-il du thriller psychologique?
Le thriller psychique, c'est ma patte de façon de parler de mon terrain d'écriture. Le thriller psychique, c'est tout simplement tout ce qui n'est pas dit en nous a raison de nous. C'est-à-dire que dans les histoires, c'est finalement ce que les personnages ne comprennent pas d'eux qui va se retourner contre eux. Et ça, c'est le psychisme qui le fait plus que la psychologie ou la psychiatrie. La psychiatrie, c'est des états. La psychologie, c'est des petites lois, on va dire, sommaires, mais efficaces. Alors que le psychisme, il n'y a que le mot qui peut contrôler. Le psychisme, on ne peut pas le contrôler. Ça, c'est par la pulsion de vie, de mort. Mais tout s'organise autour d'une pulsion. Alors, tout dépend de l'individu. L'individu, quand il est placé, il ne subira pas. Mais quand il n'est pas placé, il subit. Je m'explique. Quand un individu se place, c'est quand il s'est identifié sexuellement. Le sexe, l'identité sexuelle est la base de la position de l'individu. Si cette base est bancale, le psychisme sera bancal, etc.
Ah, t'as des admirateurs ou admiratrices qui t'appellent.
C'est même pas ça, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais ça m'énerve. Je vais le jeter.
Bon, il y a une certaine Louve qui nous dit dans le chat que l'écriture de Jacques se lit bien, même si les sujets sont chauds.
Oui, les sujets,
en fait,
ils sont plus que ça, ils peuvent être violents même. Alors, ce que je m'explique aussi, je déteste écrire le sang pour le sang, tout ce qui est corps, tout ça, ça ne m'intéresse pas.
Bon, nous on aime bien, mais on respecte aussi.
Je comprends, je comprends, mais même des fois je regarde des films, ils sont complètement éclatés, et j'aime bien, je prends plaisir. Mais dans l'écriture, j'aime expliquer le pire du pire. J'essaie de trouver un maximum d'informations. Comment se fait-il? Pas pourquoi, le pourquoi c'est volatile. Le comment se fait-il demande des explications. Comment se fait-il qu'il s'en est arrivé là? Et moi je remonte tout le passif de l'agression et j'essaie de trouver une place dans l'auteur par rapport à ça. Parce qu'il y a un sens. Et ce sens, généralement, et c'est là où le thriller psychique est intéressant, le sens est souvent une incompréhension de quelque chose. Alors je vous dis un exemple, quelqu'un qui a une maladie c'est une maladie. Mais il y a des gens qui entendent le mal a dit, ils décomposent les mots. Mmh. Et quand on décompose les mots, on a tendance à se rapprocher un peu plus de comment se fait-il que la pulsion n'a pas été réglée, etc. Avec Sébastien, on a parlé tout à l'heure, on parlait un peu de la pulsion de mort, on parlait de ça parce qu'il disait qu'il y a le bien, le mal, etc. Et je lui expliquais que c'est plus complexe, le bien et le mal, et en chacun de nous, en fait. Mais c'est pas le bien et le mal, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et s'il n'y en a pas une qui meurt, c'est l'autre qui prend la place. Et il faut se placer entre les deux pour bien pouvoir gérer.
Et le thriller psychique, c'est bien une création de toi.
Bah, en tout cas, c'est comme ça que je définis. Je définis mon travail comme ça, mais j'ai jamais vu de thriller psychique. À ce jour, je ne sais pas si vous, Romain, je ne sais pas, mais moi j'ai pas. Et pour moi, le thriller psychique correspond tout à fait. Le psychisme, en fait, c'est universel. Le psychisme, l'inconscient ne dort pas. Nous, on est obligé de dormir, mais l'inconscient ne dort pas. Même quand vous dormez, il y a le rêve qui arrive, il y a le travail, il y a les rêves, il ne dort pas. Le seul jour où il dormira, c'est quand vous serez mort. Mais le psychisme, il ne dort pas. Vous êtes obligé de dormir. Et le psychisme, c'est pour vous dire que c'est très très fort parce que c'est quelque chose qui porte beaucoup de choses. Enfin, qui apporte en tout cas.
Et c'est vrai que ça a un impact vraiment très fort dans le roman Plasma, donc on va en venir plus précisément à ce roman, qui est l'opus 2, Romain, et ami auditeur du 101.5 de la trilogie des pulsions.
Ouais.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est ta définition du mot Plasma qui intitule ton roman. À un moment donné, alors ça, j'adore, c'est Romain. On arrive à la page 231, je pense, de mémoire, et on a un des personnages, je ne dis pas lequel, pas de spoiler, eh bien, on voit le mot plasma en lettres majuscules, écrit sur le ventre, c'est ce qu'on pense, mais en fait, c'est écrit de l'intérieur. Alors moi, j'ai trouvé ça fort d'avoir le titre comme ça qui surgit à un moment de. Je pense que c'est la première fois qu'on voit le mot plasma, et j'ai envie que tu nous en parles un peu plus, justement.
Alors justement, tu parles de spoiler, je peux vraiment pas expliquer pourquoi c'est plasma, parce que là, ça va foutre en l'air tout le bordel, dans le sens où là, au début, c'est sur le ventre, mais plus tard dans l'histoire, il y a des plasmas, il y en aura partout, hein, écrit sur les arbres, tout ça, plasma, avec des mains d'enfant, plasma, et c'est écrit partout. Et il y a que vers la fin où on découvre vraiment ce que signifie le mot plasma. Et je peux pas le dire là.
On est d'accord que c'est un sens même pluriel.
Ah ben un sens. Et puis
moi j'ai lu sur Wikipédia aussi que c'est rattaché au mot créature.
Pas du tout.
Ah bon bah voilà.
Non, plasma, c'est beaucoup plus simple que ça. On parlait tout à l'heure d'identité. Et là c'est vraiment des gens. Je suis obligé de le dire, ça va
être... Non, faut pas...
Mais c'est dommage, parce que c'est vraiment...
On ne se spoil pas.
Le titre du roman, c'est la solution du roman.
Ok.
Mais bon. Ça me rappelle un roman qu'on avait, Aura, si tu te rappelles, où il y avait 3 points de suspension, il y avait une clé, mais en fait, on n'avait pas trouvé le bon mot à l'époque.
En fait,
Ça, c'est astucieux, je trouve.
En fait, le déroulement du roman est dans la couverture, sur le titre. Voilà. Mais c'est à découvrir après, hein. C'est pas tout de suite.
C'est ça aussi qui est très bien avec le roman, c'est qu'on a pas mal de rebondissements, de gros et de petits rebondissements. Et on va en venir à la nature humaine.
Ouais.
Ça, c'est l'un des personnages de Tueur, apparu dans l'opus 1, Les cicatrices, qui m'avaient marqué à l'époque lorsque tu me l'avais prêté. Kader Abouze, le tueur en question. Alors, à 9 ans, pour faire bref, il va recevoir dans des caves... J'insiste sur le mot « les caves », l'éducation d'un homme étrange nommé le maître et nécrophile. Voilà, on a quand même des scènes, c'est dur. Et que symbolise sous ta plume, outre des scènes choquantes que je ne vais pas dévoiler quand même à la radio, qui s'y passent donc, dans ces caves, que symbolisent ces caves pour l'enfant vendu par ses parents, Kader Abouze?
Que symbolisent les caves?
Que symbolisent ces caves pour ce personnage-là, Kader Abouze, et aussi pour d'autres personnages par la suite, comme Serge Miller qui se retrouve dans sa cave aménagée pour mener son enquête.
En fait, je vois ce que tu veux dire, mais Kader Abouze, le passé, il a vécu dans une cave. Alors, d'une cave à une cave, voilà. Et en fait, le mal qu'on vous fait, si vous ne travaillez pas dessus, vous serez condamné à le refaire. Mais vous le refaites à d'autres, et des autres aux autres. Il y a une hérédité dans tout ça. Dans le mal, il y a une hérédité. Et à partir du moment où il n'y a pas une personne qui dit stop, ça continuera. Donc le mal qu'on vous fait, on le fera à l'autre. Et c'est simplement ce que tu dis, je l'entends bien, c'est d'une scène bien précise. Mais elle fait partie d'un mécanisme qui est beaucoup plus... c'est-à-dire que plus plus on transmet à l'autre la violence, l'autre va l'alimenter avec ses propres problèmes, propres névroses, et va augmenter la violence sur l'autre encore qui arrive, etc., etc. C'est en escalade, en fait. Voilà. Donc c'est très très dur de gérer ça. Donc pour lui, il est normal de faire ça.
Sachant qu'il a été vendu à l'âge de 9 ans par ses parents.
C'est ça.
Et c'est vrai que pour moi, ces caves, c'est un peu ce qui est caché un peu au regard. Quand on rentre dans les belles demeures, là, ça se déroule à Marrakech, on voit pas forcément le mal qui est caché.
Mais en plus, dans le roman, Marrakech, il y a beaucoup d'enfants de la rue, comme on dit. C'est des enfants qui n'ont plus de famille, qui ont été rejetés, etc., ce qui existe encore aujourd'hui, hein. Et ces enfants-là, ils ont été utilisés pour des expériences. Et tout ça se faisait dans les caves, dans les grottes aussi. Et ça, c'est vraiment des situations humainement tragiques. Ça existe encore. Hein. Ces enfants sont. Il y a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés à Marrakech, qui sont dans la rue, les enfants de la rue, comme ils disent.
On voit que Jacques se documente beaucoup, en fait, vraiment.
Ah oui, toujours.
Également, je ne vais pas l'aborder, mais aussi sur les gens du voyage qui est exclu des leurs. S'ils commettent des fautes en les marquant sous le talon du pied.
Le talon du pied.
J'ai appris quand même pas mal de choses. Et pour en revenir donc à Kader Abouze, moi je trouve qu'il y a un lien habile entre ce Kader, Alors, qui raconte son passé dans un journal, dont on a des fragments dans des chapitres. Mmh. Et j'aime beaucoup l'appellation de ces chapitres, Mémoire morte.
Mémoire morte. Hein.
Voilà, parce qu'il est mort, en fait, on le sait, hein, en lisant le 1, et ça nous l'est dit dans le 2. Mmh. Donc, il y a un lien entre Kader Abouz et le vétéran, un autre tueur qu'on a dans l'opus 2. Et en fait, bon, c'est un petit spoiler, tous deux sont en quelque sorte voilà, des soldats.
En fait, c'est
élevé par le maître un peu de Marrakech, voilà, qui les recueille.
Je te dis, c'est toute une organisation qui utilise les enfants abandonnés, alors Kader ou même d'autres, il y en aura d'autres. Mais en attendant, ils sont tous élevés sous le même prisme de violence. Mais chacun pense qu'il est unique, alors qu'en fait, tout a été banalisé. Et la banalisation peut tuer, hein, les gens, et le psychisme surtout. Et donc, du coup, ce que tu dis, c'est très vrai. Et c'est surtout qu'ils n'ont pas eu le choix. Parce que quand on regarde Kader, on s'aperçoit qu'il est condamné à être ce qu'il est.
Et c'est là où on sent qu'en fait... Mais toi, quand tu as écrit les cicatrices plasma à peu près à la suite l'un de l'autre, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une vaste machination par ce maître... Et tu savais déjà qu'il y aurait des liens aussi évidents entre le 1 et le 2?
Alors, pour être un peu plus clair, c'est pas un maître, c'est...
Oui, ça s'appelle comme ça dans le...
Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais t'as le maître, t'as les esclaves, etc. Mais c'est une organisation qui est mondiale, qui n'a plus rien à voir avec ça. Ça c'est limité à un maître. Mais derrière tout ça, il y a toute une machinerie assez monstrueuse qu'on verra plus tard dans Impulsion, le dernier opus, auquel je travaille encore un peu. Et voilà. Mais ça, c'est la fin de la trilogie des pulsions, c'est vraiment la pulsion humaine sur tous ses aspects, le merveilleux comme le pire. Et c'est ça qui m'a toujours fasciné. Et ça se traduit à travers plein de comportements du quotidien. On peut voir beaucoup de choses chez les gens, leur façon de marcher, leur façon de sourire, leur façon de lutter aussi. On peut le voir, on le devine. On ne met pas mes bouts dessus, mais on sait.
Donc on a vraiment mentionné la violence un peu que subissent et que vont après faire subir à d'autres ces personnages. Et si le vétéran, donc on en revient donc à ce tueur dans l'opus 2, il planifie ses meurtres dans Paris, tu autorises quand même des bouffées d'oxygène à ton équipe de limiers. Alors je vais citer pêle-mêle Marc, Lisa
Gaspini,
Serge... Et pour moi, la nature, Jacques, sous ta plume, en devient même poétique. Et je vais lire un petit passage. Donc c'est extrait d'un chapitre, parce que chaque chapitre, en fait, c'est un personnage qui s'exprime avec le jeu. Donc c'est celui de Serge Miller, page 213. Dans le ciel, la lune est ronde. Sur la mer, elle ondule, tel un gris bouilli huilé. La pluie fine dilate la lumière de la lune sur les alentours, comme la mousse d'une aspirine dans un dernier regain d'effervescence. Je déglutis âprement. Rouvrir les dossiers amassés dans l'antre de la terreur et récupérer ce jour-là. En fait, cette nature-là, c'est comme une parenthèse. On respire, comme à un moment donné Marc avec les abeilles, le ciel bleu, il y a de très très belles phrases. Et cette nature, qu'amène-t-elle de positif pour toi par rapport à la nature humaine ? La nature avec un grand N.
La nature, par l'humain, elle est contemplée. Elle n'est pas intellectualisée. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire que tu vas avoir un vol d'abeilles, un bruit. Un jour, j'avais écrit que quand il y avait des éclairs, c'est le ciel qui cousait la terre avec des éclairs. Donc voilà, ça donne des images. Mais tout ce qui est nature, la nature, elle se contemple, elle ne se réfléchit pas comme on réfléchit notre vie.
Elle est curative pour
elle est plus que curative. Elle permet de prendre de la distance et puis d'être surtout très, très bénéfique par son silence, juste en observant. Je ne sais pas si toi tu fais comme ça, mais c'est m'arrivé de regarder un arbre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai à regarder un arbre comme ça? J'ai l'air un peu bête quand même. Et en fin de compte, quand tu t'aperçois que l'arbre, quand il sera mort, il sera encore là, et qu'il a vu passer des familles, ça calme un peu quand même. Parce qu'on a beau dire, ouais, là, moi je bouge et tout, mais lui reste sur place et voilà.
Et là, on va rêver, Romain, avec un nouveau titre de Jacques. Je voulais faire la transition, la belle nature rêveuse, avec le titre Dreams.
Dreams,
ouais. Oui, alors de Quench.
Quench.
Quench. Ouais. Et on vous retrouve tout de suite après.
Oui.
On va continuer à rêver sur les ondes du souvenir de plasma.
Un peu de technotrance, hein, on écoute rarement dans cette émission.
Ouais, mais moi j'aime bien écouter, quand j'écris, j'aime bien cette musique-là. J'aime aussi.
Ah oui, ouais. T'écoutes ça en écrivant?
En musique de fond, il y a de la musique comme ça, il peut y avoir aussi du jazz. Je suis vraiment très éclectique, dans tout, des fois même du rock, j'ai déjà écouté du rock, des fois du reggae. J'aime vraiment la musique qui pour moi est vitale, c'est vital, en fond musical en tout cas.
D'accord.
Ouais, j'ai besoin. Mais ces morceaux-là, un peu industriels et en même temps inspirés, ça me plaît beaucoup. Ouais.
Et là, on va réentendre la musique de tes jolis mots. Ouais. L'homme voudra nous faire croire des choses. Comme dans un zoo. Il ne s'y rend pas pour découvrir les animaux. Il y va pour satisfaire ce besoin impérieux de se sentir supérieur à tout ce qui l'entoure et conserver l'illusion qu'il maîtrise la vie dans des enclos barricadés. Se promenant dans les allées sans risquer le danger grâce à son intelligence. Alors c'est qu'un court extrait, mais il y a plein comme ça de passages où Jacques nous amène, en fait, et c'est ma question suivante. Mais quel est le but recherché par ces nouvelles perceptions de choses que tu t'appliques à donner à voir au lecteur, comme ici?
J'applique pas grand-chose. Ce que je dis dans cette écriture, c'est ça veut dire que l'homme se sent bien quand il est en sécurité, c'est-à-dire quand il gère tout. Gérer les animaux, la nature, se balader sans avoir de problème, sans avoir de vie, c'est un peu le leitmotiv de la vie de beaucoup d'humains et de gens, en fait, en général, où ils ne veulent absolument aucune surprise. Il faut que tout soit établi, que ce soit les animaux, tout. Et parfois, la famille. Tout rentre dans des cadres. Et
ah bah
ça m'énerve ce truc.
Là, il y a quand même de l'inattendu avec ton smartphone.
Il y a de l'inattendu.
Je ne comprends rien, ce machin. Parce que et puis, j'arrive même pas à l'étendre. Voilà, c'est pas grave. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, l'homme, en général, il cherche à tout contrôler. La nature, se balader au milieu des allées, comme tu dis, c'est une allégorie de comportement humain, en général.
Il y a même aussi un passage, ça m'a fait sourire, par rapport au mot téléviseur, télé, qui vise, et qui est vu comme un psychopompe par Zachary.
C'est ça.
Et ça permet justement de voir les choses, mais d'un œil nouveau, d'un œil neuf. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa que de retourner un petit peu. Ah bah oui, le zoo humain, oui, c'est ouais, ça, j'aime bien. Ouais. On voit que vraiment plasma, c'est vraiment très riche. Il y a cette histoire là de soldats tueurs, mais c'est beaucoup plus complexe que là où on vous fait que mettre en appétit, en fait, hein, pour vraiment attaquer le livre. Alors, l'originalité, Romain, c'est qu'on peut lire à l'envers, en fait. On peut très bien commencer par le 2.
Ah oui.
Et on a tout le 1, mais qui n'est pas résumé, comme je déteste les résumés, là, des bouquins en début de l'autre. Là, c'est, tout est imbriqué. On sent que c'est vraiment, c'est comme un tout, en fait. Un tout qui a été séparé. Il y a les cicatrices, partie 1 et partie 2 du même film, en fait, Plasma. Parce que c'est très aussi, très imagé et ça pourrait être porté à l'écran. Et on a des histoires sentimentales, des histoires de cœur qui m'ont énormément touché, notamment celle de Serge Miller avec Camilla, un travesti. Et pour moi, c'est la pulsion, donc l'amour, c'est telle une pulsion. Quelle promesse, vraiment, cette pulsion de l'amour dans la trilogie des pulsions, en fait, tient-elle ?
Alors en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est pour moi, l'amour n'est pas une pulsion. L'amour, c'est l'amour. Ah. Et l'amour est désintéressé de la pulsion, en fait. C'est-à-dire que l'amour n'existe pas dans le sens où on nous fait croire que un jour, on va rencontrer le ou la amoureuse de ta vie. Et en fin de compte, ça se passe pas du tout comme ça dans les faits. Dans les faits, vous avez un état, rencontre quelqu'un, vous êtes un état, on va dire, agréable. Cet état, vous allez le continuer de l'alimenter ou pas. Et après, vous découvrez l'amour. Mais l'amour n'existe pas si vous ne le créez pas, si vous ne participez pas à l'échange qui va vous permettre d'être bien, d'être mieux, et pourquoi pas de créer la vie, des enfants, etc. Mais un enfant seul n'est pas amoureux, il a besoin d'amour, mais il n'en a pas. Si on a besoin, c'est qu'il n'en a pas. Donc c'est pareil pour l'humain. L'humain a l'illusion de croire qu'il va rencontrer l'amour de sa vie, mais l'amour n'existe pas. Elle se crée avec une personne avec qui vous êtes bien. Et là, tu me fais penser à Serge Miller et Camilla. Camilla, bon, qui est travestie. Et moi, je voulais mettre de côté ce comment on appelle ça, ce tabou du travesti, du machin. Mais faire passer ces deux personnes qui s'aiment vraiment. Et ce courant d'amour traverse les barrières sociales et les fait exploser même. Et c'est là où le psychisme c'est très fort, c'est que quand ils vont rencontrer quelqu'un avec qui ils peuvent faire quelque chose, ça colle direct. Il faut savoir que dans le psychisme, il y a une chose qui est assez incroyable, l'inconscient ne supporte pas le mensonge. L'inconscient se sent bien quand il y a la vérité. C'est pour ça que les menteurs ont beaucoup de remords. Alors le remords, faut décomposer le mot. Remords, je me remords. Mort. C'est un dentier en fait qui mange le psychisme en permanence parce que le remords, c'est une erreur que on regrette qui vous mange, qui vous mange, qui vous mange. Et en attendant, une fois que vous mettez la lumière sur ce truc, tout s'envole. Les tensions s'en vont. Et là, pour l'amour entre deux personnes, même si socialement, etc., ça ne correspond à rien, ils s'aiment. Et c'est vraiment ça qui se passe dans le roman. Et je voulais que ce soit le plus naturel possible, on va dire.
Ah oui, bah c'est le cas. Bon, vraiment, c'est vraiment un livre romain. Donc là, tu vois, il me dit bien. En fait, il amène à réfléchir différemment donc sur la définition de l'amour, qui n'est pas une pulsion, sur d'autres choses comme le zoo et encore d'autres choses. C'est vraiment très 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 profond. Et là, j'ai envie de parler quand même du nouveau roman en cours d'écriture, cher Jacques. Les racines inférieures excluent les amis du 101.5, le nouveau roman en cours d'écriture de Jacques. Et là, pour originalité au roman, ça va te plaire, à toi comme à moi, il se déroule à Angers. Or, comment Jacques t'inspire notre ville pour servir de cadre à ces meurtres?
Alors déjà, Angers, c'est devenu ma ville, hein, moi. C'est-à-dire que je suis angevin, ça fait 10 ans, on peut considérer que je suis angevin, j'espère. En attendant, j'aime beaucoup cette ville, j'y suis vraiment très 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 attaché. Et donc évidemment, je voulais écrire un roman qui se passe à Angers, en fait c'est un thriller. Les racines inférieures, alors déjà je parle énormément de la ville, de sa culture, la richesse de sa culture, de son histoire aussi, sans être... sans barber les gens, comment dire, au travers d'une histoire. Une histoire où la belle ville d'Angers, où il fait bon vivre, en une semaine va devenir un chaos infernal. je vais vraiment tout... Mais je vrai,
c'est plus la douceur de vivre. Hein.
Attends le deuxième tour des municipales, là, pour en sortir.
Non, mais en fait, là, comme ça, ça peut paraître un peu assassin, le truc, mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est une ville calme, etc., mais on va retrouver... Je vais raconter l'histoire un petit peu. On va rencontrer des scènes de corps absolument atroces, limite boucherie, avec un seul point commun entre toutes ces scènes, un tournevis qu'on n'arrive même pas à identifier, sans ADN, sans rien, et c'est toujours le même, disposé à chaque... Alors ça, c'est ça. À côté de ça, il y a un véritable... Je sais pas comment dire, quelqu'un qui est vraiment un tueur, à base, il fait des éventrations, on va dire comme ça. Et c'est toujours les mêmes personnes. Et là, pour le coup, ça devient beaucoup plus pour la police, ça devient beaucoup plus concret. Donc, il y a des meurtres absolument atroces qui sont absolument indéchiffrables, inexplicables. Donc, ils font appel à plein de gens spécialisés, etc., qui font partie des personnages. Et puis, à côté de ça, il y a quelque chose de beaucoup plus, on va dire. Alors, tout ça, c'est évidemment relié. Tout ça, c'est évidemment un sens. Et dans cette histoire, je mets en lumière aussi bien ce qu'a fait le roi René, de bien, mais le roman inférieur va parler de ce qu'il n'a pas fait.
Ah.
Voilà. Et donc, toutes les familles qui sont bourgeoises, Angers, etc., sont liées à quelque chose voilà. Alors, en tout cas, dans les racines inférieures, c'est très, beaucoup de tension, mais il n'y a qu'à la dernière page qu'on saura vraiment ce qui se passe, mais vraiment la dernière page. Mais il y a plusieurs fins. Hein. On trouve l'assassin au couteau, etc. Et après, il y a plusieurs fins dans le dernier roman.
Soit comme dans la littérature interactive, quand on a des romans jeux avec plusieurs fins. Et pour finir, j'aimerais savoir ce que le Jacques d'aujourd'hui, qu'a-t-il appris du Jacques d'hier, que ce soit dans le processus de l'écriture jusqu'à ces fameuses racines inférieures, et aussi dans le processus éditorial. Parce que j'ai cru comprendre qu'avec Transit, éditeur, numérique livre, ça ne s'est pas passé comme dans un rêve, par rapport à ce que tu disais dans une de tes premières interviews, je suis très très heureux. Bon. Et même, on a été privé, Romain, du dernier tome, Impulsion, qui a été écrit, mais qui n'a pas pu sortir. Ouais. Peux-tu un peu, brièvement, revenir un peu sur ces tracasseries éditoriales?
Alors, quand je commençais par l'éditeur, les éditeurs, en fait, je me suis aperçu très vite que c'était pas moi le problème, c'est les éditeurs. Mmh. Le premier, il m'a carrément... J'avais fait, je crois, 5000 exemplaires et comme je te l'ai expliqué, j'ai reçu un chèque de 25 dollars, même pas signé chez moi, la honte totale. Et cet éditeur qui était au Canada, Transit éditeur, dont le patron Pierre Turgeon a vraiment spolié tout son calendrier, calendrier de d'écrivain, et il a pris l'argent de tout le monde. Hein,
ok, voilà. Là, il nous écoute de son île.
Oui, au Canada.
Ah bon. Ouais. Il y a des îles là-bas.
Qui restent bien là-bas, de toute façon, on ne peut plus sortir du territoire, apparemment, il y a un procès, enfin, bon, bref, ça ne regarde pas trop. Et puis après, j'ai été sélectionné par Stéphane Carrière, qui est le fils d'Anne Carrière, et c'est lui qui m'a donné un avaloir pour écrire Addiction, que j'ai écrit et qui n'a pas pu publier parce qu'il était trop lourd, selon ses dires. Et du coup, j'ai été chez un autre éditeur qui s'appelle Numérique Livre, et lui, il a fait un AVC.
Ah.
Alors en fait, tous ces parcours... Ah ouais,
tu leur portes peut-être pas chance.
C'est gentil de dire ça, Romain. Ça serait éternellement reconnaissant, tu vas faire passer d'un chapitre, je crois. Je rigole. Non, en fait, je me suis aperçu que c'était... Alors, il y a plusieurs solutions. Comme tu dis tout à l'heure, au bout d'un moment, je me dis, bon, l'écriture, c'est pas pour moi, il faut que j'arrête et tout. Mais je peux pas arrêter.
Non, ça n'a rien à voir.
Non, mais je sais bien. Mais c'est que je peux pas arrêter. C'est pas possible. Donc, j'ai pris beaucoup de recul. Mais en fin de compte, je me suis dit, en fait, c'était peut-être pas le temps. Peut-être que j'ai écrit trop en avance. Je ne sais pas. Parce que les romans, c'est pas forcément qu'une histoire de talent. C'est une histoire de temps aussi. Parfois... vous attendez un roman à l'eau de rose, vous allez tomber sur quelqu'un qui écrit de l'eau de rose, boum, bim, voilà, ça marche. Et enfin, je sais pas, il y a toujours quelque chose qui se passe, mais là, pour le coup, je me sens bien, j'ai aucun regret par rapport à tout ça, bien au contraire. Parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment bien placé, je suis chez moi, chez mon ordinateur et j'écris. Et je suis heureux comme tout, et non, il y a aucune raison que j'arrête. Donc évidemment, les racines inférieures, j'ai fait dans le roman, et après, j'ai ciblé quelques éditeurs. J'en connais quelques-uns qui en connaissent d'autres, etc. Ça va assez vite à ce niveau-là. Mais moi, ce que je veux, c'est écrire un bon roman qui
crée. Ouais, dans la lignée de la trilogie des pulsions, qui a déjà, pour les deux premiers, pas mal de bonnes critiques.
Oui, justement.
Et ça aide, justement.
C'est-à-dire que ce qui reste, en fait, c'est pas dans la librairie, c'est même pas la peine de chercher mes livres, vous les trouverez pas. Mais par contre, quand vous regardez les critiques sur Internet, restent tout le temps, toutes. Alors, elles sont plutôt bonnes, en général. Et les éditeurs, ils aiment bien voir ça, etc. Moi, mon but, comme je te dis, c'est de faire les racines inférieures, et puis après, je me concentrerai sur la trilogie en entier, pour la sortir, ou la faire sortir, soit en coffret, ou soit par livre individuel. Il faut savoir que Cicatrice et Plasma ont vécu des éditions différentes.
Oui. Et donc, pour conclure, je vais encore employer une de tes phrases, mais là, de Plasma, pas une phrase, là, ce que tu m'as sorti sur l'écriture, c'est peindre avec des mots. Mon addiction est la vérité. Sans elle, il est impossible de se construire, et c'est un des personnages pivots qui le dit dans Plasma, mais découvrez-le, qui sait, en lisant donc ce fabuleux roman qui se savoure et qui prend son temps, justement, pour nous épater au fil des chapitres. Et on se quitte sur...
Merci Sébastien, merci Romain.
Enigma.
Amen.
And I never look back, 'cause I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. Oh, man.
lost, I believe I will be found. In the silence of my night, I can hear a distant voice. Someone out there is calling my name.
Watch out!
Très belle chanson pour finir. Ah oui, mais tu peux parler, Jacques.
Ah ouais, je savais pas.
Un morceau d'Enigma en 1996.
On est en recueillement, je sais, mais quand même.
Non. Oui, Amen, c'est un super morceau. Pour calmer, pour planer, on va dire même. J'aime beaucoup cette chanson. Enfin, ce morceau est très très beau.
Eh ben, on va s'écouter la chronique polar que Jean-Luc Hugues a écrit pour La Tête en Noir et qui nous a enregistré.
Félicitations, Elgie, c'est un calamar.
Chers auditeurs, chers sociétaires bien-aimés, ma chérie, bonjour. Ma chronique va s'appeler Tape-cul sur le lapin. Alors je sais, ça paraît un petit peu obscur, mais vous allez en comprendre le sens très rapidement. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de deux romans de polar que j'ai lus récemment. Alors il y a d'abord Tape-cul de Joe R. Lansdale, avec une traduction de Michel Blanc, c'est sorti à la série noire chez Folio Policier. Joe R. Lansdale, c'est un mec très bien. D'ailleurs, c'est bien simple, c'est un fan d'Edgar Rice Burroughs, de Frederick Brown et de Ray Bradbury, c'est dire. Alors, parmi son œuvre, j'ai une petite faiblesse pour les aventures de Hap Collins et Leonard Pine, qui ont donné lieu d'ailleurs à une série télévisée du meilleur goût. C'est du polar teinté d'un humour noir tout à fait réjouissant. Alors, Hap Collins, c'est un hétéro blanc au grand cœur, et Leonard Pine est un noir, homo, et semble dénué d'humanité, alors que, bien entendu, ce n'est pas le cas. Les deux sont en fait de vrais humanistes aux méthodes parfois un petit peu expéditives, mais peut-être justifiées. Leurs aventures se déroulent dans un Texas profond. Alors, on ne cache pas que certaines visions sociétales de cette région, où vit l'auteur, frisent parfois la parodie. Tape-cul, c'est le cinquième opus de leur aventure. Alors, la maison de Hap a été détruite par une tornade et il squatte la maison de Leonard, qui est pour le moins agacé du comportement de son ami. Alors, c'est peut-être lié au fait que celui-ci sème des slips sales un petit peu partout et autres joyeusetés de célibataire mâle bordélique. Et on se demande si là, il n'y a pas des pléonasmes. Léonard, qui est plutôt ordonné, ne comprend pas pourquoi Hap ne s'installe pas avec sa chérie Brett, qui est une splendide rousse, avec un caractère un petit peu affûté, faut bien le dire, et au tempérament de feu. D'ailleurs, elle a écrasé le visage de son ex-mari à coups de pelle, ce qui prouve une certaine détermination. Brett a une fille, Tilly, qui se drogue et se prostitue, mais qui manifeste l'envie de décrocher. Et elle a décidé de l'aider à le faire, ce qui paraît pas totalement illogique du point de vue parental. Le souci réside dans le fait qu'elle travaille dans un bordel mexicain qui est tenu par des Américains aux idées qui fleurent bon la pestilence nazie. Habituez-vous. Bien entendu, Happ décide de l'aider et Léonard ne veut pas laisser son ami seul dans cette galère annoncée. Vont s'en suivre une série d'aventures et une galerie de personnages tout à fait truculentes et une fin pour le moins agitée. Soyez honnête, hein, il ne s'agit pas d'une œuvre littéraire inoubliable, mais un roman qui permet de passer quand même un très bon moment. Alors, Tape Q sur de la page, je disais, donc Tape Q, on a compris. Et maintenant, je vais vous chroniquer un roman de Gary K. Wolf qui est sorti chez Yinis et qui s'appelle « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?». Alors, il faut savoir qu'en 1988, Jacques Pinboin, mon complice de Phénomène J. Paris, et moi-même réinvestissons Le Grand Rex après un an de Le Grand Bleu que nous ne sommes pas allés voir car nous n'aimons pas les dauphins. Alors, le célèbre cinéma parisien était devenu non-fumeur, bon, mais projette Qui veut la peau de Roger Rabbit sur son nouvel écran géant. Et c'est la grande claque. En même temps, Zemeckis, Spielberg, Industrial Light and Magic et les studios Disney sont dans le coup, et à l'époque, tout ce beau monde pesait très lourd. J'apprends quelques années plus tard que le film est inspiré d'un roman de Gary K. Wolf que l'on ne trouve pas en français. Jusqu'à l'année dernière, où les éditions Yinis font traduire la chose par Jack Fuente Alba, excusez du peu. Quoique craignant que l'adaptation colle trop au roman, je m'attaquais à l'ouvrage et j'ai bien fait. Je rappelle que le monde où évoluent les protagonistes est le nôtre à la fin des années 40, au détail près que les Toons, qui sont des personnages de bande dessinée, vivent parmi nous plus ou moins bien intégrés. Au personnage clé près, nous sommes très très loin de l'intrigue du film où, je résume, Roger engageait Eddie Valiant, le détective, pour constater l'adultère probable de sa femme Jessica. Or, dans le roman, après un an d'une relation passionnée, Jessica a quitté Roger pour vivre avec Rocco de Grisi, un grand producteur de comics, homme de pouvoir du milieu. Rocco a recruté Roger pour se servir de faire valoir à Baby Herman, un gros poupon de 36 ans, avec le sexe d'un enfant de 3 ans à son grand désespoir. Roger Rabbit a recruté Valiant, qui accepte par appétit de lucre pour savoir pourquoi Rocco ne veut pas lui lâcher son contrat pour un comics dont il serait le seul héros. Les meurtres commencent alors. L'ambiance est beaucoup plus sombre que dans le film, la sculpturale Jessica a un passé coquin et le lapin a un côté noir. Le dénouement est étonnant, explique toutes les zones d'ombre du roman. Un humour très second degré et parfois référencé, mais c'est encore un bon moment. Alors, à titre anecdotique, il faut savoir qu'aujourd'hui, il est très compliqué d'obtenir le film de Roger Rabbit, puisque les différentes maisons qui avaient accepté de laisser des droits pour le film, parce qu'on va à Bugs Bunny, Mickey, tout ce beau monde est mélangé, il y a une très jolie bagarre entre Daffy Duck et Donald, enfin, tous ces gens ont été rachetés par des compagnies qui ne souhaitent pas renouveler les droits pour le film. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée et à très bientôt.
J'aurais pas le temps de vous parler des Contes de l'Ouest de Bruno Sauty. Bon, ce sera pour une prochaine émission. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci Jacques d'être venu
à cette émission. Jacques,
merci de m'avoir invité.
C'était passionnant.
Où est-ce qu'on retrouve tes créations? T'as une page Facebook, les romans de Jacques Baron?
Un blog?
Pour le moment, j'alimente pas trop. j'avais une page pour les trucs de dépulsion. J'ai eu d'y aller parce que je me fais toujours. C'est quand la suite, j'en peux plus. Ah. J'en veux plus.
Du succès.
Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, je me fais quand même pas mal harceler sur ça. Donc, je préfère ne pas trop y toucher plutôt que de dire n'importe quoi. Et puis, okay. Je préfère écrire, on verra après. En tout cas, j'ai passé un très bon moment ici, à Radio G.
Merci beaucoup.
Et bien, bye bye aux éditeurs et rendez-vous samedi, nous, à l'après-midi, jeu de rôle à Luco.
Et bonne soirée aux éditeurs.
Yes. .fr.